Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Pendant cette 9e série d'études consacrée à ce livre, nous abordons les chapitres 32 à 34. Romuald nous rejoint pour nous faire part de ses réflexions, mais pour commencer, il va nous rappeler l'histoire racontée dans les 30 premiers chapitres du livre de l'Exode. Romuald, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage en Égypte. Cependant, le Dieu unique, le Tout-Puissant, intervient pour libérer ses gens. Et par l'intermédiaire de Moïse, il les conduit à travers le désert vers le pays promis de Canaan. Au chapitre 32, le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Moïse, quant à lui, est monté sur la montagne pour y rencontrer Dieu et recevoir les 10 commandements. Mais lorsque Moïse est sur la montagne, le peuple de Dieu demande à Aaron de leur fabriquer une idole, un veau en or. Puis le peuple se met à rendre un culte à cette idole. Et il plonge dans la débauche en suivant les mœurs impures des peuples environnants. De ce fait, Dieu, le seul vrai Dieu, leur exprime sa juste colère en affirmant son intention de les châtier. Toutefois, Moïse se met à prier en faveur du peuple. Puis Dieu demande que la tente de la rencontre soit déplacée pour être mise en dehors du camp, loin du peuple. Moïse, quant à lui, avait le droit d'entrer dans la tente pour s'entretenir avec Dieu. La dernière fois, nous avons réfléchi à la première partie de cet entretien entre Moïse et Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder la suite de ce moment privilégié. Notre lectrice va nous lire tout de suite cet extrait biblique.
L'Éternel dit à Moïse : « Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. « Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne sur toute la montagne. Il ne faut même pas que du petit ou du gros bétail pèse aux abords de la montagne. » Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes et le lendemain matin de bonne heure gravit le mont Sinaï comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants, jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il dit : « Oh Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, je sais que c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés, et accepter que nous t'appartenions. » Dieu répondit : « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. »
Merci. Nous venons d'écouter la lecture du livre de l'Exode au chapitre 34, les versets 1 à 10. Romuald, que pouvons-nous apprendre de ce récit ?
Il s'agit d'un récit riche et important. Moïse est descendu du mont Sinaï en portant 2 tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrites les 10 commandements. En voyant le peuple d'Israël s'adonner à l'idolâtrie et à la débauche, Moïse a cassé ces 2 tablettes en petits morceaux. Ce geste exprimait sa colère et son dégoût devant la conduite du peuple. Mais il symbolisait aussi le fait que le peuple avait brisé l'alliance que Dieu venait d'établir avec lui. Puis, dans le récit que nous venons de lire, Dieu demande à Moïse de tailler deux nouvelles tablettes et de remonter sur le mont Sinaï. Dieu exprime ainsi son intention de renouveler l'alliance brisée. Malgré ce qui s'est passé, malgré la révolte du peuple et son idolâtrie, Dieu veut maintenir ses engagements envers lui. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il ne le rejettera jamais. Dieu restera fidèle à ses promesses, même si son peuple ne l'est pas.
C'est incroyable.
C'est vrai, Yann. Et puis, Dieu exprime des paroles qui seront répétées tout au long de la Bible. Ces paroles dévoilent la nature de Dieu. Elles mettent à jour ses qualités. Elles nous aident à comprendre pourquoi et comment Dieu agit de la sorte envers son peuple, Israël, et envers nous aujourd'hui.
Quelles sont donc ces paroles dont le sens est si important?
L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Lors de nos études du livre de l'Exode, nous avons vu la puissance de Dieu et également sa sainteté et sa justice. Toutefois, ces versets révèlent une toute autre qualité. Dieu est amour. Ces versets nous aident à définir l'amour de Dieu. Dieu est plein de compassion. Il est empli de grâce. Il est lent à la colère. Autrement dit, il est patient et doux. De plus, Dieu est fidèle. Cela signifie que son amour est constant. Il dure à travers les temps. Il existe en toutes circonstances. Si Dieu pardonne à son peuple, il renouvelle son alliance avec lui. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il a compassion de son peuple. Malgré ses défaillances, ses égarements, il lui fait grâce. Il renonce à sa colère. Il demeure fidèle à ses promesses. Cet incident grave qui révèle l'idolâtrie et la désobéissance du peuple d'Israël, puis qui ensuite aboutit au renouvellement de l'Alliance, est révélateur de l'amour de Dieu. Il dévoile son amour en pleine action. Nous ne pouvons que conclure de toute cette série d'événements que Dieu est amour.
Merci Romuald de nous avoir rappelé cette vérité merveilleuse. J'ai cependant une question à vous poser.
Je vous en prie, allez-y.
Dans le verset cité, Dieu affirme d'un côté qu'il conserve son amour et qu'il pardonne les fautes jusqu'à 1000 générations. Mais il ajoute qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il punit les fautes jusqu'à la troisième et quatrième génération. N'y a-t-il pas là une contradiction? Comment peut-il à la fois pardonner et punir?
Ce sont effectivement des questions importantes. D'abord, dire que la compassion et la grâce de Dieu durent jusqu'à 1000 générations est une façon d'affirmer que l'amour de Dieu est solide. On peut compter dessus. Son amour est fidèle. Son amour ne change pas du jour au lendemain. Son amour nous accompagnera tous les jours de notre vie. Ensuite, il y a un élément comparatif. S'il est dit que l'amour de Dieu dure jusqu'à 1000 générations, mais que sa colère ne dure que jusqu'à 3 ou 4 générations, que pouvons-nous en conclure?
Et bien que l'amour de Dieu est plus grand, il est encore plus primordial que sa colère.
C'est exact, Kian. La Bible affirme que Dieu est amour. Dieu, de par sa nature, est amour. Mais la Bible ne dit jamais que l'on connaît Dieu par sa colère. Ensuite, je voudrais affirmer que la punition n'est pas forcément en contradiction avec l'amour et le pardon. Je pense que tout parent peut comprendre cela. Nous aimons nos enfants, mais lorsqu'ils font des bêtises, il est nécessaire de les corriger, pour les aider à comprendre la différence entre le mal et le bien, pour les amener à grandir vers une plus grande maturité. Une correction qui est faite pour aider un enfant est une expression de l'amour de ses parents envers lui. Elle vise son bien. Donc, si ce texte parle d'un Dieu d'amour qui corrige aussi, il faut en retenir plusieurs leçons. D'abord, il s'agit du rappel que nous sommes responsables de nos actes devant Dieu. et que nous ne devons pas abuser de son amour en nous conduisant n'importe comment. Il s'agit aussi du rappel que Dieu est juste et que toute injustice exige une réponse, une punition appropriée. La justice de Dieu n'est pas en contradiction avec son amour. Non, elle est une expression de son amour. Car la justice de Dieu vise à protéger le bon fonctionnement de la société, les bons intérêts de tous et les bonnes relations humaines. Et même, une punition infligée pour aider est une expression d'amour si elle vise notre bien, si elle cherche à nous ramener sur le bon chemin.
Merci Romuald. Cependant, il y a une question qui peut troubler certains, car il est dit que Dieu punit les fautes d'un père sur les enfants jusqu'à 3 ou 4 générations. Est-ce que des enfants innocents peuvent subir une punition pour des fautes qu'ils n'ont jamais commises? Cela semble en contradiction avec la justice de Dieu.
Il est vrai que ce verset peut rendre perplexe et nous troubler. J'ai 2 remarques à faire. D'abord, il s'agit de poésie, et nous ne devons pas toujours interpréter la poésie de façon littérale. L'intention de l'auteur est surtout de comparer l'amour de Dieu avec sa colère, et de démontrer que l'amour, la compassion et la grâce de Dieu surpassent. Il dépasse de loin les conséquences de sa colère. C'est la grande leçon à retenir. L'amour de Dieu est incomparable, immense. Et à côté, sa colère est réelle, mais elle est moins significative. Cependant, et ayant dit ceci, je pense qu'il y a aussi un avertissement à retenir. Si un père ou une mère commet une faute grave, cela peut entraîner des séquelles qui peuvent retomber malheureusement sur leurs enfants et même sur leurs petits-enfants. Autrement dit, nos péchés engendrent des conséquences malheureuses et douloureuses qui affligent les personnes qui nous entourent. Dieu peut pardonner le péché, mais il peut ne pas forcément enrayer les conséquences de nos actes et attitudes. Voilà un exemple. Un père coléreux peut, par ses colères excessives, traumatiser son enfant, qui vivra avec des séquelles psychologiques toute sa vie. Cet enfant peut croire également qu'il est normal de régler ses problèmes en ayant recours à la colère, et il risquera de devenir coléreux à son tour, ce qui entraînera des séquelles sur ses propres enfants.
Merci Romuald, c'est sur cette note que nous concluons cette émission.
En effet Yann, et je me permets donc de faire une dernière remarque. Toute personne qui réalise qu'elle est piégée dans ce genre d'engrenage peut se tourner vers le Dieu de compassion et de grâce pour trouver en lui non seulement le pardon, mais aussi un amour guérissant et une puissance transformatrice qui l'aidera à briser le cercle vicieux dans lequel elle est prise. Oui, Dieu est amour.
Merci Romuald. Nous poursuivrons nos réflexions sur le livre de l'Exode la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.